Le Off Média.
Le Off Média, chaque semaine, on décrypte les coulisses des médias dans Mediamag. Et aujourd'hui, en compagnie d'Émilie Lamine, on va parler d'une histoire d'amour et de haine, celle de l'industrie du pétrole et des médias.
Et oui, aujourd'hui, quel rapport dangereux les journalistes entretiennent-ils avec l'or noir quand ils traitent du sujet ? On va vite se rendre compte que l'éthique de certains groupes de médias et de journalistes en particulier peut vite être mise à mal. Les articles sur le pétrole au Canada, c'est un peu l'illustration d'une épaisseur très très fine d'un fil imaginaire qui serait l'objectivité du journaliste. Et à travers l'exemple de rapports peu moraux, on va sûrement devoir dans l'avenir redéfinir ce qu'est la déontologie dans le métier. Puis on a deux, trois exemples assez concrets à donner.
Là, en fait, Émilie, tu ne t'intéresses pas particulièrement à l'avis des journalistes, c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils soient pour ou contre le pétrole, c'est pas ce qui nous importe, c'est plutôt de voir à quel point l'objectivité du journaliste est remise en question dans le sujet.
Ouais, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est que c'est des cas précis et récents où l'avis et où l'implication des médias dans le domaine du pétrole prend le pas, dans le fond, sur l'information en tant que telle. Et là, on parle bien sûr de conflits d'intérêts, de réputation que l'on peut questionner, et ça se traduit sous plusieurs formes. La première dont je vais parler, c'est les partenariats. Et là, je m'explique. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du groupe de presse canadien qui est basé à Toronto, donc c'est Post Media, et de sa relation avec l'industrie du pétrole. L'année dernière, le groupe a organisé une conférence sur le pétrole avec l'association canadienne des producteurs de pétrole, donc je vais appeler la CAPP tout au long de cette chronique. Et selon eux, les médias doivent travailler en partenariat avec la CAPP pour mieux informer sur l'industrie du pétrole au Canada. C'est une idée qui pourrait se valoir, sauf que pour ça, Post Media propose carrément de sponsoriser cette énergie qu'est le pétrole à travers son association et seulement à travers son association. Et là, ça veut dire quoi ? Tout simplement que c'est la CAPP qui donne le contenu des sujets aux médias et que les journalistes de Post Media rédigent derrière, tout simplement.
Voilà, donc les deux entreprises ont conclu, les deux associations et entreprises ont conclu d'un accord. Et d'ailleurs, c'était le Vancouver Observer qui avait révélé cette association entre les deux entités. Et d'ailleurs, le message de la CAPP passe plus facilement grâce aux médias et à Post Media.
Mais évidemment, c'est bien plus diffusé, mais là on se doute que l'information peut être un peu faussée, et c'est comme ça que tout naturellement, ouais, c'est ça, leur parole est reléguée dans beaucoup, on parle vraiment de beaucoup de journaux, par exemple le National Post, le Vancouver Sun, le Calgary Herald ou encore le Times Colonist, entre autres, hein, on peut même pas tous les citer. Et ça, là pour moi, ça s'apparente entre guillemets à de la propagande arrangée. Et bien sûr, du côté de CAPP, on s'en doute, la porte-parole Geraldine Anderson a déclaré que son entreprise avait une obligation d'informer les Canadiens, mais qu'en aucun cas il n'avait d'influence dans le contenu éditorial. Là, je pense qu'on peut réagir là-dessus. On se doute bien qu'on ne peut pas ne pas avoir d'impact sur un contenu quand c'est nous qui commandons la nouvelle. Et surtout que c'est eux qui payent les journalistes et les journaux de post-média pour diffuser ces informations.
Voilà, donc difficile de trouver une ligne de partage entre ces deux associations. Et d'ailleurs, je rappelle que post-média publie de nombreuses revues pétrolières.
Oui.
Et c'est donc une excellente raison pour post-média de s'associer avec l'industrie canadienne. Donc les liens sont quand même assez étroits. Et on vient de parler de partenariat, Émilie. Justement, quel était le deuxième cas de figure qui fait débat dans les rapports entre l'industrie pétrolière et les médias ?
Eh bien, là, ouais, on parlait de partenariat, donc dans un groupe de médias. Le deuxième cas de figure dont je veux parler, c'est les journalistes, les personnes journalistes, donc les journalistes reconnus ou journalistes vedettes, si on préfère, qui acceptent de se faire payer pour parler du pétrole. C'est un peu la même chose, mais là, c'est ça, on parle juste d'une personne. On va se servir d'elle pour son image, en fait. Et là, son image parce qu'elle a un impact sur le public. Là, je vous donne un exemple. Vous connaissez sûrement Peter Mansbridge, qui est le présentateur des nouvelles du National à la CBC. Et ça, depuis 1995. C'est pour ça que je vous parle d'image quand je parle de journaliste vedette. On s'entend que là, on parle d'une sommité dans les médias et que tout le monde, son nom est connu. Il a été, en fait, au cœur d'une controverse en février dernier, quand il a accepté de l'argent pour prendre prendre la parole sous son étiquette de présentateur média lors d'un événement de la CAPP, encore une fois. Et c'est le spécialiste de l'environnement, Sierra Rain, qui a fait sortir la nouvelle. En fait, il a découvert sur la page Facebook de la CPP une photo de décembre 2012 où on voit Peter Mansbridge derrière un podium. Il va parler de pétrole, on s'en doute. Et sur ce podium, en fait, on voit le large logo de la CPP juste devant la figure de notre journaliste.
Donc, clairement, en fait, Peter Mansbridge a utilisé son image ou s'est associé avec l'association du pétrole et donc l'association canadienne des producteurs pétroliers en tire bien sûr un avantage en termes d'image.
C'est sûr, et là ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est pas un cas isolé en fait à la CBC. En fait, une semaine plus tôt, on parlait de Rex Murphy, qui est une autre personnalité de la CBC, qui a été critiquée pour les mêmes raisons. Et là, grande surprise, quand la question a été posée à la chaîne télévisée, la rédactrice en chef, Jennifer McGuire, a déclaré qu'il n'y avait rien de contraire à l'éthique, puisque c'était bien connu que Rex Murphy défendait les sables bitumineux déjà à la télévision et puis bien avant de faire des conférences pour l'association du pétrole.
Et voilà, Rex Murphy, un personnage assez sulfureux à la CBC. Vous pouvez bien sûr le regarder sur le réseau. Et cerise sur le gâteau, hein, c'est Jennifer McGuire a rajouté que le fait qu'il ait reçu de l'argent de l'Association canadienne des producteurs de pétrole ne la dérangeait pas, puisqu'elle ne considère pas Rex Murphy comme un journaliste ordinaire, mais plutôt comme un pigiste indépendant à Radio-Canada.
Donc là, oui, il faut voir que pour elle, en tant que pigiste, il a toujours eu plus de liberté pour exprimer son opinion, contrairement aux journalistes qui sont là à temps plein. Et là, on peut légitimement se poser la question d'un journalisme partisans à la CBC, qui, on le rappelle au passage, c'est pas une chaîne privée, c'est pas une petite chaîne. D'ailleurs, on peut écouter un extrait d'une entrevue que tu as réalisée avec Jeffrey Dworkin, qui est un ancien journaliste à la CBC et puis surtout aujourd'hui directeur du programme de journaliste à l'Université de Toronto. Et là, il fait la part des choses en fait entre le cas de Peter Mansbridge, dont on a parlé en premier, et celui de Rex Murphy.
Rex Murphy était parti pris devant cette audience. Selon les reportages qui se trouvaient sur YouTube aussi, il était très partisan vers l'industrie pétrolière. Peter Mansbridge était, dans son discours, il parlait uniquement sur les objets et les avantages de la radiodiffusion publique au Canada. Il a fait un grand effort de ne pas être perçu comme parti pris. Au même temps, les deux journalistes, Murphy et Mansbridge, ont pris les gages de l'industrie pétrolière. Et c'est ça le problème. Sur CBC Radio, ça donne l'impression que CBC a les meilleurs journalistes qu'on peut acheter. Les perceptions d'être partisans.
On entendait donc Jeffrey Dworkin, qui a également été ombudsman pour la National Public Radio, c'est la radio publique américaine. Et pour terminer, on précise, Émilie, que d'autres journalistes vont aller dans l'autre voie, c'est-à-dire s'opposer, eux, à l'industrie du pétrole au Canada.
Oui, on peut prendre l'exemple de Linda Solomon-Bois, qui est, en fait, c'est une journaliste numérique qui a reçu un prix de la part de la Fondation canadienne du journalisme pour tout son travail d'investigation qu'elle a fait tout au long de sa carrière pour la presse internationale. Un prix qui lui a permis aussi de mettre en avant sa nouvelle entreprise média, The National Observer. Et en gros, c'est un site internet entièrement dédié à la politique énergétique au Canada. Face à des cas comme ceux qu'on a cités un peu plus tôt dans l'émission, elle a déclaré que le Canada avait besoin d'une nouvelle source journalistique avant de rajouter « Notre pays n'a jamais eu autant de pipelines et de conflits à propos des énergies fossiles ». Et là, elle touche un point important. Et là, quand je dis un point important, je parle de la démocratie, de l'aspect démocratique qui est aux origines du journalisme de base. C'était la raison d'être des médias à la base. Et là, évidemment, crise financière oblige dans le domaine médiatique. On le sait, ça n'est un secret pour personne. Les grands groupes de médias ont misé beaucoup sur la publicité pour que leurs journaux survivent. Mais le problème de la publicité, c'est qu'elle est souvent cause de conflits d'intérêts.
Oui, d'ailleurs, tu parlais du National Observer. C'est un site qui n'est pas encore lancé, qui devrait arriver sur la toile d'ici aux prochains mois. Et dans un contexte comme celui-là, le projet de Linda Solomon-Bois veut mieux répondre à l'opinion des gens et à une démocratie plus juste ou plus libre, disons, moins de conflits d'intérêts.
Oui, elle le dit clairement, les journaux et les diffuseurs traditionnels sont trop endettés. Ils licencient de plus en plus de journalistes. Là, je n'ai pas besoin de citer des exemples, on parle de Radio-Canada. Sans argent, on a forcément moins accès à des enquêtes de fond. Ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, on mise sur le côté indépendant pour parler d'énergie et de pétrole. En fait, on veut parler aussi des alternatives, pas justement se baser seulement sur le pétrole. On parle des alternatives, des enjeux d'une énergie, de cette énergie qui est ancrée en fait dans le pays, dans une culture entière nationale. Et c'est justement parce qu'on n'a pas assez de connaissances sur les autres solutions énergétiques qu'on mise autant sur le pétrole. On s'entend que l'impact environnemental est un peu mis sous le tapis pour laisser place à des enjeux plus économiques. Mais ça, c'est le jeu des politiciens. Il ne faudrait pas que ça rentre dans le jeu des journalistes. Là, quand on arrive à se dire qu'un journaliste peut être payé pour l'industrie pétrolière, ça va un petit peu loin. On a de quoi se poser des questions sur l'essence du journalisme moderne.
Merci beaucoup, Émilie Lamine, pour cette chronique. Et puis, merci également à toute l'équipe, car Mediamag, c'est déjà fini pour cette semaine.